critiques d'art ne sont pas peintres. Il m'a fallu admettre que je ne m'intéressais pas trop à la musique moderne, enfin, scientifiquement parlant. J'avais dû mentir et m'inventer une passion pour la pop turque telle que je me connais, au profit de la musique du XIXe siècle, occidentale et orientale. Le nom de Franz Liszt lui était familier, celui de Hagi Emin Efendi ne lui disait absolument rien, sans doute parce que je le prononçais affreusement. J'avais dû faire le malin en lui parlant de mon enquête, que je trouvais passionnante, haletante même, à propos du piano de Liszt. Ce fameux piano à queue, grand modèle, la, mi, la, à 7 octaves et 3 cordes, mécanique à double échappement et rare, avec tous les perfectionnements, en acajou, etc., sur lequel il avait joué devant le sultan en 1847. Entre-temps, les autres convives s'étaient assis à leur tour, avaient repris des bières et Faugier, alors qu'il avait jusqu'ici prêté plutôt attention à une autre, a jeté son dévolu sur la jeune femme à qui je racontais péniblement en anglais, ce qui est toujours laborieux. Comment dit-on acajou, par exemple? Maragoni, comme en allemand? Mes grandes petites affaires. En un clin d'œil et en turc, il l'a fait rire aux éclats, à mes dépens, je suppose. Puis, toujours dans la même langue, ils ont parlé musique. Enfin, je crois. Je comprenais Guns N' Roses, Pixies, Nirvana. Puis, ils sont partis danser. J'ai contemplé un long moment le Bosphore qui brillait à la fenêtre et le cul de la fille turque qui ondulait presque sous mes yeux alors qu'elle se déhanchait face à ce bel âtre content de lui de Faugier. Il vaut mieux en rire, mais j'avais été plutôt vexé à l'époque. Bien évidemment, j'ignorais la réalité de la faille, de la fêlure de Faugier qui allait devenir faille. Il a fallu attendre Téhéran des années plus tard pour que je découvre ce qui se cachait derrière cette façade de séducteur, la tristesse et la sombre folie solitaire de cet arpenteur de bas-fonds. C'est bien sûr à Faugier que je dois d'avoir fumé ma première pipe d'opium, passion et technique qu'il avait rapportée de son premier séjour en Iran. Fumer de l'opium à Istanbul me paraissait d'un autre âge, une lubie d'orientaliste. Et précisément pour cette raison, moi qui n'ai jamais touché à aucune drogue illégale ni eu aucun vice, je me laissais tenter par la thébaïque. Très ému, effrayé même, mais d'une peur de jouissance, celle des enfants face à l'interdit, pas celle des adultes devant la mort. L'opium était dans notre imaginaire tellement associé à l'extrême-orient, à des chromos de chinois allongés dans des fumeries, qu'on en oubliait presque qu'il était originaire de Turquie et d'Inde, et qu'on l'avait fumé de Thèbes à Téhéran en passant par Damas, ce qui, dans mon esprit, aidait aussi à éloigner l'appréhension. Fumer à Istanbul ou à Téhéran, c'était retrouver un peu l'esprit du lieu, participer d'une tradition que nous connaissions mal, et remettre au jour une réalité locale que les clichés coloniaux avaient déplacée ailleurs. L'opium est encore traditionnel en Iran, où les teriyaki se comptent par milliers. On voit des grands-pères amaigris, vindicatifs et gesticulants, fous jusqu'à ce qu'ils fument leur première pipe, ou dissolvent dans leur thé un peu du résidu brûlé la veille et redeviennent doux et sages, enveloppés dans leur épais manteau, à se réchauffer auprès d'un brasero dont ils utiliseront les charbons pour allumer leur bas four et soulager leur âme et leurs vieux os. Faugier me racontait tout cela pendant les semaines qui précédaient mon initiation, qui allaient me rapprocher de Théophile Gautier, de Baudelaire et même du pauvre Heinrich Heine, qui trouva dans le laudanum et surtout dans la morphine un remède à ses maux, une consolation dans son interminable agonie. Faugier avait utilisé ses contacts parmi les tenanciers de bordel et les gardiens de boîtes de nuit pour obtenir quelques rondelles de cette résine noire qui laissait sur les doigts une odeur très particulière, un parfum inconnu qui rappelait